Fort intérieur avec Lisa Bressner. Nous vous savons gré, madame, d'aimer à ce point la nature que vous cherchez à nous faire mieux comprendre comment la branche fleurie rencontrant la chambre des fleurs donne des nuages et de la pluie. Bon, pour en savoir plus, je renvoie à vos 23 délices publiées chez Gallimard en l'an 2000. Si l'amour du jeu est puissant chez vous, Lisa Bressner, si on le retrouve dans votre Lao Tzu et Pékin et mon jardin, aux éditions Actes Sud, par exemple, nous n'allons pas enfermer le papillon que vous êtes dans une volière. Vous vous en échappez aussitôt en écrivant une douzaine de livres pour enfants, en faisant des films, en donnant même à France Culture une fiction, et surtout, nous d'ailleurs nous éclairerons particulièrement ce point, en publiant des traductions du chinois et des études de sinologie. Je citerai votre traduction du texte taoïste du vide parfait de Li Tzu, en question rivage poche, et votre dernier livre savant aux éditions Philippe Piquet, Tuiles intactes et jade brisée. Le bilan est impressionnant pour quelqu'un né il y a à peine plus de 30 ans et qui fut, à vous lire, en échec scolaire. Mais où est la vérité, où est la fiction? Quand vous parlez de vous, nous verrons, c'est un vaste sujet. Alors maintenant, s'il vous plaît, portrait de la petite Lisa qui développe son œuvre en y intégrant à la fois de la compétence, elle est incontestable, beaucoup d'imagination et un certain éros joyeux. Mais avant la naissance de cet éros, la petite fille, comment était-elle? Où était-elle?
Je suis fille unique. J'ai été beaucoup élevée par ma grand-mère à Bruxelles. C'est elle qui m'a, par exemple, m'a fait baptiser à l'âge de 8 ans. Elle m'a dit, il faut qu'on te baptise. Il faut absolument, elle n'était pas baptisée. Donc, à l'âge de 8 ans, j'ai étudié la religion, mais comme une adulte. Et donc, le curé, ou le prêtre, je ne sais plus comment on le disait, c'était à l'abbaye de la Cambre à Bruxelles, était très impressionné par mes questions. Parce que déjà, je remettais en question pas mal de choses. Et donc, ça a marqué énormément de choses, c'est être baptisée à l'âge de 8 ans. Et puis évidemment, à 10 ans, j'avais déjà tout oublié, on va dire. Et ces voyages incessants entre ma mère et ma grand-mère, je faisais tout le temps le trajet toute seule, soit en train, soit en avion.
Dans Bruxelles, non. Votre grand-mère était à Bruxelles et votre mère
À Paris.
À Paris.
Voilà. Mmh. Et déjà, ça m'a donné un goût d'indépendance et j'ai jamais eu peur de voyager seule, même enfant. Et donc, ce qui fait que je me déplaçais très rapidement dans ma chambre, par exemple. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, j'aimais beaucoup dessiner aussi. Et je m'amusais à recopier des peintures chinoises, des lavis. J'aimais beaucoup le lavis, parce que j'adorais le noir et blanc. Mon père était daltonien. Enfin, il voyait que couleur. Et donc, je voulais me rapprocher un petit peu de ce qu'il voyait, comment il voyait la réalité. Je me suis dit qu'à travers la peinture chinoise monochrome, je pourrais me rapprocher de sa vision.
Parce que ce père parti, c'est une fiction ou c'est une réalité?
Non, c'est une... Enfin, il est pas parti en Chine, mais j'aurais bien aimé qu'il y parte. Moi, il m'aurait rapporté quelque chose. Non, il est tout simplement parti, il est devenu un sans-abri. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis partie en Chine il y a quelques années, en 1998...
Jamais auparavant?
Non, j'ai attendu mes 18 ans, en fait, pour partir, ma majorité, parce que ma mère ne voulait pas que j'y aille avant, quoi. Ce qui s'est passé,
donc c'était avant 98, ouais. Le premier voyage.
Oui, 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 tout à fait. Ouais. Mais en 98, je suis repartie en Chine.
Ouais.
Et je n'y suis restée 48 heures parce qu'on m'a appelée. Et mon père, que je n'avais pas revu depuis des années, mais qui m'écrivait néanmoins de temps en temps, et que je mourais d'envie de revoir, on m'annonce qu'il vient d'être assassiné. Donc j'ai dû repartir tout de suite. Et c'est comme ça qu'à travers, enfin, puisque j'étais sa fille unique, en voulant m'occuper du procès, puisque évidemment il y avait des assassins, deux meurtriers, j'ai pu retracer ce qu'il avait fait depuis qu'il était parti de la maison, enfin plus ou moins. Et j'ai comme ça eu rencontré des gens, des témoignages, de gens qui me disaient, qui parlaient de moi, qui imaginaient une vie, que je n'avais pas d'ailleurs, mais il savait au fond de son cœur que je ferais du chinois. Et ça m'étonnait.
Mmh. Et oui, donc le romanesque qui se trouve dans vos ouvrages, même ceux d'ailleurs qui ont une apparence savante, n'est pas simplement fruit d'une imagination. C'est que dans votre vie, il y a quand même des événements assez étonnants.
Oui, ah oui, c'est vrai.
Celui-ci, il est effrayant et atypique, ouais. Et en même temps, ce va-et-vient entre deux livres, l'absence, le départ du père, les petits mots, voilà. Bon, mais tout ça ne nous dit pas, Lisa Bressner, pourquoi la Chine ? Et assez tôt, je crois,
ouais.
Ce goût pour la Chine et la langue chinoise que vous maîtrisez.
Bah, ça a rapport avec l'échec scolaire. Donc j'ai...
Ça, c'est vrai.
Oui, donc ma mère déménage...
Je ne vais pas passer l'heure à vous demander, c'est vrai, c'est faux.
En fait, ma mère déménage et en fait, je change surtout de conservatoire. Je faisais de la danse classique, ce qui m'a appris beaucoup de discipline, ce qui m'a aidé d'ailleurs à faire du chinois, à m'accrocher en tout cas. Et j'étais comme tous les enfants qui ont 12 ans, quand on déménage, que le papa est parti, enfin on n'est pas très bien. Donc j'étais vraiment en étape de régression, je suçais mon pouce en classe, je refusais vraiment de faire quoi que ce soit, sauf d'écrire. Et ma prof de français a remarqué ça et elle remarquait aussi que je mangeais beaucoup moins. Donc c'était une femme qui était aussi psychanalyste, mais qui ne voulait pas du tout me prendre par ce biais-là, parce qu'elle voyait que j'étais très méfiante. Et donc elle me proposait juste de lui livrer quelques textes et qu'on les lise ensemble tous les jeudis et qu'elle apporterait mon gâteau préféré. Et on a fait ça pendant un an. Et cette femme m'a dit, écoute, pour t'en sortir, apprends le chinois. Moi, je n'ai pas pu le faire quand j'étais jeune. Fais-le pour moi. Et donc là, ma mère s'est battue, elle était dans tous les rectorats, etc., pour trouver un lycée qui, en seconde, accepte de me prendre en chinois première langue. Et donc, ce qui m'a permis, entre la cinquième et la seconde, de rattraper toutes les années pour être au niveau de chinois première langue en seconde.
Donc vous avez rattrapé toute seule ou...
Toute seule, avec des amis chinois, puisque j'habitais dans le 13e, donc c'était assez facile. Et puis, j'avais vraiment j'avais enfin trouvé une obsession saine.
Et là, vous êtes mise à travailler.
Ouais.
Et avec joie.
Voilà.
Voilà. Et qu'est-ce qui vous a fasciné le plus dans cette écriture ?
Ben, c'est que, comme autour de moi, tout le monde se cherchait des maisons, se cherchait quelque part un refuge. Moi, j'ai tout de suite vu l'idéogramme comme une maison où il y avait des pièces infinies, vous voyez. Un peu un palais des mille et une nuits, je ne sais pas si c'est cette histoire où un architecte se perd dans ses plans. J'adore ce conte.
Conte chinois ?
Non, un conte des mille et une nuits. Il se perd, il est en train de dessiner un palais, et en fait, il se perd dans son propre palais qu'il est en train de dessiner. Il n'y a que lui qui peut en fait ressortir du plan pour redessiner la porte. Enfin, c'est très très beau, c'est une belle mise en abîme. Et ben là, ce qui...
Ah oui, ça veut dire retrouver le monde réel pour pouvoir modifier l'imaginaire.
Tout à fait.
Oui. Et vous étiez un peu dans ce voyage-là.
C'est-à-dire que ce qui m'a fascinée, c'est que comme j'adorais me raconter des histoires et en raconter aux autres, j'avais enfin devant moi un langage qui me racontait non pas une histoire, mais chaque mot était déjà une histoire, puisque chaque idéogramme est une étymologie qui est très, très... On peut passer une soirée à parler d'un caractère. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant, parce que je me suis dit, si avec un caractère, on peut faire une histoire, alors si on les assemble, qu'est-ce que ça va donner ? Donc j'aurais toujours à portée de main un foyer d'inspiration. En plus, si je l'apprends vraiment, si ça circule dans ma tête, ça m'a énormément rassurée. Voilà, j'avais mon bagage.
Voilà,
milliers d'idéogrammes.
Ce qui nous a pas empêché d'apprendre l'anglais, peut-être des langues anciennes, et ensuite d'être même licencié, ou je ne sais plus jusqu'où vous êtes allé, en japonais ou en italien.
Non, ça c'est pas vrai.
Ça c'est du baratin qu'on met sur les
livres.
Oui, je
ne suis pas mariée avec un diplomate chinois, comme on me dit souvent.
ça c'est de la fiction, je l'ai bien senti à travers le livre.
J'aimais pas trop l'école, mais j'ai pas plus aimé l'université, sauf à la fac à l'INALCO, au Longzo. J'ai eu deux professeurs merveilleux, François Cheng et Jacques Pimpano, qui m'ont formée en chinois classique, parce que la mode à l'époque, c'était plutôt de faire du commerce, faire Sciences Po et faire chinois, parce que ça faisait bien. Donc il y avait très peu de monde en chinois classique, et moi, comme j'ai vu que c'était des professeurs merveilleux, enfin, Jacques Pimpano par exemple, ses contrôles, enfin les examens, c'était posez-moi des questions. Et je vous jugerai sur la pertinence de vos questions. Je trouvais ça merveilleux. Ouais. Et lui, il est parti à Lisbonne avec son musée. Et j'aimerais beaucoup faire un reportage, parce que c'est une personne âgée maintenant. Justement, j'aimerais lui rendre hommage à travers la photographie de Georges Bataille et du corps des 100 morceaux, puisqu'il se trouve que Jacques Pimpano a assisté au dernier moment de Georges Bataille quand il était à Place Saint-Sulpice.
Ah oui. Donc, vous maîtrisez le chinois parlé.
Ouais.
Oui.
Oui,
oui. Oui, vous arrivez à avoir une conversation. Oui, bon. Et vous maîtrisez le chinois classique.
Oui.
Vous arrivez à lire sans l'usage du dictionnaire la plupart des textes classiques.
Faut quand même pas exagérer. Hein. J'ai besoin de mon dictionnaire.
De temps en temps,
quand même.
Oui. Ouais, ouais. Vous pensez que vous possédez combien d'idéogrammes?
Je n'en ai aucune idée, honnêtement.
Et ça se compte par milliers, quand même.
Oui, mais en fait, ce que j'explique souvent à des gens qui me posent la question, tout dépend de ce que vous lisez. Vous pouvez lire que du roman contemporain, et finalement, vous allez avoir besoin de 8000 idéogrammes, et ça suffira.
Même pas, oui.
Voilà, même pas à 5000. Après, si vous vous spécialisez en philosophie, en médecine, en érotisme, en poésie, etc., bon, bah, vous allez devoir apprendre un autre registre de vocabulaire. Donc, ça va s'ajouter. Pareil, si vous êtes spécialisé pour la botanique, alors là, ça va être encore autre chose. Donc, moi, je ne me suis jamais amusée à compter. Simplement, il y a des textes que je peux comprendre. Puis, quand on connaît le chinois classique, il est relativement facile de connaître pas mal, enfin de circuler de texte en texte. C'est vrai que c'est vraiment une excellente base.
Alors, vous livrez une partie de l'état d'esprit de votre enfance et de votre adolescence dans Pékin et mon jardin.
Bah, voilà, je voulais attendre mes 30 ans pour le faire.
Oui. Ah bon? À la manière Lisa Bresner, c'est-à-dire que parfois on ne sait pas si c'est de la carpe ou du lapin, puisque de temps en temps on se dit ben, c'est bien elle, et d'autres fois ça n'est pas possible, manifestement. Donc, il y a chez vous cette propension. Alors, est-ce que cette propension à mêler de l'imagination à la réalité se retrouve quand vous faites des études plutôt savantes?
Oui, enfin, les histoires personnelles et les rencontres, ce qui me paraît de plus en plus merveilleux aujourd'hui, en plus, enfin, grâce à Internet notamment, je le vérifie tous les jours, j'ai des petits miracles, ce que j'appelle mes petits miracles. C'est des choses qui tombent tellement pile-poil, qui sont... Ça tombe bien. Et c'est soit des gens, soit une connaissance, soit, enfin une connaissance, je veux dire, une vérité, enfin quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Et c'est vrai que je n'écris pas, par exemple, Tu les intactes déjà brisées, c'était pas pour montrer un savoir, ou parce que je m'estime que je suis pas spécialiste vraiment de quelque chose. Moi, je suis comme Jacques Pimpano. Pour moi, les sinologues, il avait une histoire très amusante. Il est à un dîner mondain avec des gens et une dame très chic à côté de lui. Alors, il se présente, Jacques Pimpano. Et puis, un autre monsieur intervient en disant « Ce monsieur est sinologue ». Et la dame a passé tout le dîner à lui parler de son chien, croyant qu'il était spécialiste, en effet, des chiens. Donc moi, je ne dis pas que je suis sinologue, je dis que j'aime me consacrer à certains sujets. Voilà. Donc quand c'est possible, par exemple à Rome, j'ai eu la chance donc, d'aller à Villa Médicis, je voulais enquêter sur un jésuite qui s'appelle Danilo Bartoli, et finalement, je n'ai pas pu enquêter sur lui, mais j'ai trouvé autre chose, et hop, j'ai rebondi. Pour le père Léon Vigueur, c'est vrai que tout le monde, j'avais 25 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à Léon Vigueur, tout le monde m'a demandé, mais attends, à ton âge, t'intéresser aux jésuites, mais vous comprenez pas, c'est passionnant, c'est les... Enfin, il y a une subversion aussi que les gens ont du mal à saisir.
En fin de compte, la démarche est plutôt littéraire. C'est pas tellement une démarche savante.
Plutôt.
Qu'entendez-vous par là?
C'est que j'admire des gens comme Matteo Ricci au XVIIe siècle, Léon Vigueur quelques siècles plus tard, qui ont le courage de tout quitter. Famille, bon, ils n'ont pas d'enfants, mais enfin, à l'origine, de toute façon, ils sont pas forcément, enfin, ils n'ont pas une grande foi. Ils veulent tout simplement vivre un grand naufrage, tenter le sort, tenter la mer. Et ça, c'est moi qui suis fascinée par l'eau. Je trouve ça, à leur époque, il y avait très peu de moyens, ils avaient une chance sur deux de mourir, hein, si ce n'est plus. D'avoir ce courage de franchir plus de 10 000 km, mais avec des moyens, fallait voir lesquels, et ensuite de rester là-bas et d'y mourir. C'est ça qui m'a fascinée. Et après, ce qui m'a encore plus fascinée, c'est ceux qui n'arrivaient pas à y aller, comme Danilo Bartoli, qui était coincé à Rome parce qu'il était trop intelligent et qu'on ne voulait pas le faire partir, parce qu'on se dit, c'est une bonne pièce, on va le garder à Rome. Et on lui a donné à écrire, en fait, l'histoire de Chine. C'est-à-dire l'histoire des jésuites en Chine. Ça, c'était donc au XVIIe. Et il a dû... Alors ça, c'est une démarche littéraire fascinante. Il recevait les lettres et il devait imaginer comment ça se passait vraiment. Et donc, il en a écrit, c'est des phrases à la Proust, c'est en cours de traduction. Et je trouvais ça génial qu'il ait inventé, c'était un premier Ségalène, quelque part. Il a réellement inventé sa Chine intérieure sans bouger de Rome.
Alors, au fond, ce que vous aimez, c'est les décalages.
Voilà.
Voilà. Les lieux, on a l'impression où la banquise va se fendre, il va y avoir une fente au milieu et vous glissez là-dedans.
Absolument.
Oui, c'est pour ça que je parlais d'une démarche littéraire,
oui,
en fin de compte.
Oui,
c'est pas tellement la démarche du savant qui veut faire avancer la connaissance,
oui,
en tout cas pas la connaissance de manière directe, parce qu'après tout, dans cette fente, il y a aussi de la connaissance très profonde, mais vous allez dans ces sortes d'interstices où vous glissez à l'aise, apparemment.
Ouais.
Oui, apparemment.
Bah, avec toujours du bonheur.